Alors ce soir, je voulais vous parler d'un sujet dont je parle presque jamais. Je voulais vous parler de la délivrance des démons, c'est-à-dire du combat que nous avons à mener pour être délivrés des démons. Donc il faut délivrer les captifs des démons qui les lient. Alors quand on parle de la délivrance des démons, ça veut dire nous engager dans un combat pour résister aux démons que Satan envoie contre nous et contre tous ceux qui sont captifs de ces démons, pour que ces démons soient ôtés de la vie des gens qu'ils lient. Alors, c'est surtout pour nous encourager à mener ce combat dans la foi, parce que constamment autour de nous, nous avons des gens, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient païens, qui sont liés par des démons. Et le Seigneur doit nous donner le discernement pour comprendre quand, comment nous devons attaquer ces démons pour les chasser au nom du Seigneur Jésus. Il faut vraiment être dirigé par le Saint-Esprit. Et pour ça, nous avons toujours le modèle du Seigneur Jésus. Jésus n'allait pas dans les rues pour chasser les démons. Jésus allait dans les rues pour annoncer la parole, pour prêcher la repentance. Et l'onction qui était sur lui faisait s'agiter les démons. Il ne pouvait pas supporter ça. Et lorsque les démons étaient agités et se manifestaient, Jésus les chassait à ce moment-là. Faisons comme lui. Donc c'est un domaine qui est vraiment très particulier et très, j'allais dire, excitant. Parce que quand nous voyons la puissance de la parole et du nom de Jésus, et que nous savons par la parole que les démons tremblent au nom de Jésus, quand nous commençons par la foi à chasser les démons que le Seigneur nous montre et qui se manifestent, le risque, c'est d'être entraîné trop loin, et c'est un danger pour les enfants du Seigneur, d'aller trop loin dans ce combat, c'est-à-dire de tout miser sur les démons, de voir des démons partout, et de passer tout notre temps à chasser les démons. Il y a une place pour chasser les démons dans le ministère des enfants de Dieu. Mais il n'y a pas que cela, il ne faut pas être déséquilibré, il ne faut pas voir des démons partout. Il y en a qui chassent par exemple des démons d'obésité alors qu'il faudrait simplement s'arrêter de manger. Donc il faut avoir vraiment le discernement. Il peut y avoir des démons d'obésité aussi, mais il ne faut pas se lancer dans un combat qui ne soit pas conduit par le discernement du Seigneur. Par contre, il ne faut pas non plus éviter le combat quand le Seigneur nous montre que nous devons combattre pour chasser des démons. Et il faut s'engager dans ce combat. Il y avait toute une partie du ministère de Jésus qui consistait à chasser les démons. Quand il envoie les disciples et qu'il leur dit « Voilà les signes, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru », le premier des miracles qu'il indique, c'est « En mon nom, vous chasserez les démons ». Quand il envoie les 12 dans Matthieu 10, qu'il envoie les 12 pour prêcher la parole de repentance, il leur dit « Guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons en mon nom. » Donc nous allons forcément être obligés, dans notre ministère de serviteurs et de servantes de Dieu, nous allons être obligés de rencontrer des démons parce qu'ils sont autour de nous, ils sont partout. Satan contrôle toute notre planète, il contrôle tout ce monde extérieur, il contrôle les gens qui n'appartiennent pas au Seigneur. Et il arrive à lier beaucoup de chrétiens. Donc il faut que vraiment nous soyons engagés dans ce combat, dans la puissance du Saint-Esprit. Il y a des conditions précises à remplir, mais il faut que nous les remplissions pour nous lancer dans ce combat que le Seigneur nous demande de mener. C'est un ordre du Seigneur Jésus. Si nous ne chassons jamais de démons, et si une église n'est jamais engagée dans la délivrance des captifs, eh bien il y a un manque sérieux. C'est que, ou bien l'onction de Dieu ne demeure pas sur cette personne ou sur cette église, parce que quand l'onction demeure, forcément les démons finissent par se manifester. Ils ne peuvent pas supporter l'onction. Donc, ou bien il n'y a pas d'onction, et c'est grave, ou bien on désobéit à Dieu et on ne chasse pas les démons. C'est aussi grave. Il y a des moments où il ne faut pas prier le Seigneur en lui demandant de chasser des démons. Jésus nous dit, vous chassez les démons. Il y a des moments où Jésus décidera de ne rien faire, parce que nous n'aurons pas fait ce qu'il nous demande de faire, c'est-à-dire chasser les démons. Il y a des démoniaques qui vont être là, des démons qui vont se manifester, et si à ce moment-là nous tournons les yeux vers le Seigneur en disant « Seigneur, je te supplie de chasser les démons de cette pauvre personne, Seigneur, interviens, Seigneur, interviens », Jésus ne fera rien parce qu'il nous dit dans sa parole « Prends l'autorité que je t'ai donnée et en mon nom, chasse-les devant toi, là, ceux qui sont en train de se manifester ou ceux que tu discernes par mon esprit. Chasse-les. Ne recule pas devant le combat que tu as mené. Que ces démons t'attaquent ou que ces démons attaquent des personnes qui t'entourent. Alors, les démons sont des esprits invisibles qui n'ont pas de corps charnel, mais qui peuvent se manifester de manière visible en prenant une forme humaine quelquefois. Mais ce sont des esprits qui sont au service de Satan. Je ne vais pas entrer dans la discussion de savoir d'où viennent les démons, ce n'est pas intéressant. Certains disent que ce sont les anges déchus qui sont devenus des démons, c'est possible. Certains disent que ce sont les esprits des hommes qui ont servi Satan, qui continuent à le servir avant d'être jetés en enfer au jour du jugement. C'est possible aussi, mais en tout cas, ce n'est pas important. Ce qu'il faut savoir, c'est que les démons sont des esprits qui sont au service de Satan, donc qui sont tous méchants, mauvais et impurs. Ils ne cherchent qu'à détruire, ils ne cherchent qu'à tuer comme leur maître, à faire du mal, à souiller, à faire tout le mal qu'ils peuvent, à s'opposer à la parole du Seigneur et à l'œuvre de Christ. Ils forment des armées innombrables. Il faut savoir que les armées du Seigneur sont beaucoup plus nombreuses. Puis de toute façon, un seul ange de Dieu et un seul enfant du Seigneur rempli du Saint-Esprit est capable de résister à Satan lui-même, hein, donc à plus forte raison à ses démons. Il ne faut pas avoir peur de Satan et de ses démons, il faut savoir que ce sont des ennemis qui sont définitivement vaincus, mais qui sont encore puissants pour faire du mal. Ils ont été vaincus par Jésus à la croix, mais ils sont encore puissants parce qu'ils ne sont pas encore jetés dans le trou ou dans le lac de feu. Ils sont encore laissés libres sur la terre. Et il faut absolument comprendre que nous devons nous engager dans ce combat en sachant que Jésus a gagné déjà le combat d'avance. Ce sont des esprits au service de Satan. Et comme Satan est encore le prince de ce monde qui nous entoure, ces esprits sont dans le monde entier pour faire l'œuvre de leur maître, Satan. Jésus a dit de Satan qu'il n'est venu que pour égorger, tuer, détruire. Les démons font exactement le même travail. Ils sont sur l'ordre de Satan, engagés dans un travail qui consiste à amener les hommes en enfer. C'est ça leur but. S'ils ne peuvent pas les amener en enfer parce qu'ils ont accepté Jésus comme leur sauveur, le travail des démons, ça va être de les empêcher de travailler pour le Seigneur, ça va être de leur donner des maladies, des accidents, des choses comme ça qui vont empêcher les chrétiens de travailler pour le Seigneur, de les rendre malades, de les rendre inoffensifs ou de les éliminer complètement avant le temps. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont actuellement liés par des maladies incurables, des infirmités qui sont directement causées par des démons qui les ont rendus incapables de faire l'œuvre du Seigneur. Et Jésus veut libérer ses enfants pour qu'ils puissent faire une œuvre puissante en son nom. Quand on a parlé de guérison des malades, c'est un des aspects du ministère de Jésus. Il y a aussi l'aspect très important de la délivrance de ceux qui sont liés ou qui sont possédés par des démons. Dans Matthieu 10, au verset 1er, je commence par lire ce verset. Jésus, ayant appelé ses 12 disciples, leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Vous voyez, il commence là encore par le pouvoir de chasser les démons. Il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs. Nous qui sommes disciples de Jésus, ouvrez vos oreilles, disciples du Seigneur. Nous qui sommes disciples de Jésus, nous ne sommes pas moins bien traités que ces 12-là par le Seigneur Jésus. Dès qu'il nous appelle à son service et dès que nous nous sommes repentis de nos péchés en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur nous donne la même autorité sur les démons et sur les maladies et sur les infirmités. Il nous appelle et il nous donne le pouvoir de chasser les esprits impurs en son nom, bien sûr, en son nom, et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et on voit plus loin qu'il les envoie pour prêcher le royaume des cieux. Il leur dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Est-ce que tu as reçu le pouvoir de chasser les démons au nom de Jésus. Ne réponds pas oui trop vite, tu vas être testé. Mais il faut que tu saches que tu l'as reçu. Et c'est en sachant que tu as reçu ce pouvoir que tu as la foi de t'engager dans ce combat au nom du Seigneur. Donc, vous voyez qu'il y a des conditions là. Jésus donne le pouvoir de chasser les démons à ses disciples. Et nous savons quelles sont les conditions pour être un disciple du Seigneur. Il faut s'être repenti de ses péchés, ça c'est la base, et lui avoir donné sa vie et son cœur en disant « Seigneur, remplis mon cœur, change-moi, je reçois ton sang pour laver mes péchés, donne-moi la vie éternelle, je suis maintenant ton serviteur, ton disciple, pour toujours. » Il faut être consacré à 100%. On ne peut pas résister à toute la puissance de Satan si on n'est pas consacré au Seigneur à 100%. Si on est consacré à 50%, les démons le voient très bien. Ils ont un rayon X spirituel qui leur permet de voir si nous sommes réellement consacrés au Seigneur, d'une part, et si nous sommes dans la foi par rapport aux paroles du Seigneur. Jésus nous dit, je vous donne toute autorité sur toute la puissance du malin. Là, je vous donne le pouvoir de chasser les esprits impurs. Il n'a pas dit les plus petits et pas les plus gros. Laissez-moi les plus gros, je vais les chasser moi. Il ne dit pas ça. Il dit, je vous donne le pouvoir de chasser les démons. Quand Jésus envoie 70 autres disciples avec le même pouvoir, ils reviennent au verset 17, dans Luc 10, 17. Ils reviennent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ils ont l'air presque étonnés de ça. Jésus leur avait donné le pouvoir de chasser les démons. Ils reviennent tout joyeux en disant, mais Seigneur, même les démons, ils nous sont soumis en ton nom. Tu te rends compte, Seigneur? Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ça veut dire qu'au nom puissant de Jésus qui était prononcé par ces hommes, qui étaient de simples hommes comme nous, ils n'étaient pas meilleurs que nous, ni pire, et c'était les mêmes. Ils avaient reçu le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Ils n'étaient même pas encore baptisés du Saint-Esprit comme nous le sommes. Ils avaient reçu le pouvoir de chasser les démons. Jésus voyait Satan tomber du ciel comme un éclair, parce que les disciples liaient et chassaient les démons au nom du Seigneur Jésus. Et Jésus rajoute au verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions » et sur toute la puissance de l'ennemi. T-O-U-T-E. Ça veut dire toute la puissance de l'ennemi est soumise à l'autorité de mon nom. Si toi, mon disciple, tu prends ma parole avec foi, et si bien sûr tu es un disciple consacré et rempli de mon esprit, tu as au nom de Jésus toute autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Alors ne me dis pas qu'il y a des démons que tu n'arrives pas à chasser, comme les disciples un peu plus tard, devant un démon qu'ils n'ont pas pu chasser. Jésus s'est fâché contre eux en leur disant, race incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand serai-je avec vous? C'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu le chasser. Cette espèce-là ne sort que par le jeûne et la prière, qui sont l'indication de la consécration des disciples. Des disciples consacrés jeûnent et prient régulièrement. Des disciples consacrés reçoivent la parole du Seigneur et la gardent avec un cœur honnête et bon. Et ils sont donc toujours remplis du Saint-Esprit et de foi, comme Étienne, comme Philippe, qui faisait de grands miracles et qui chassait les démons au nom de Jésus. Quand nous sommes dans cette attitude de cœur-là, mais il faut l'être, hein, à ce moment-là, toute la puissance de l'ennemi nous est soumise au nom du Seigneur Jésus. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Il n'y a rien de plus venimeux et de plus nuisible que des serpents et des scorpions. En général, c'est des piqûres mortelles. Marcher sur des serpents et des scorpions, c'est pas rien. Ce sont des êtres nuisibles qui ont un venin mortel contre tous ceux qui ne sont pas immunisés contre ce venin mortel. Et nous sommes immunisés par la parole du Seigneur, par le sang de Jésus, par la foi en Dieu, et nous marchons en son nom sur les serpents et les scorpions, nous les écrasons au nom du Seigneur Jésus, et sur toute la puissance de l'ennemi, et il ajoute, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous faire vraiment du mal. Nuire, ça veut dire faire vraiment du mal. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas ramasser des coups, ou que nous ne serons pas attaqués par Satan, mais ça veut dire celui qui aura le dernier mot, c'est toi, enfin Jésus en toi, parce que tu es dépositaire de la toute-puissance de Jésus en son nom. Il te l'a donné, certain. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et au verset 21, je lis aussitôt ce que Jésus a dit. Il tressaillit de joie dans son esprit et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » De quelles choses il vient de parler? De ces dons merveilleux que Dieu a fait à ses enfants, c'est-à-dire la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions. Il vient d'en parler. « Et de ce que tu les as révélés aux enfants. » Un petit enfant qui reçoit la parole de son père avec un cœur tranquille, le Seigneur te dit, enfant du Seigneur, enfant de Dieu, je t'ai donné la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions, ne crains rien, tu peux avoir toute l'armée de Satan qui est envoyée par tous les sorciers de la terre et par Satan lui-même pour t'attaquer de front, ne crains rien, je suis avec toi, vermisseau de Jacob, ne crains rien, parce que avec toi, il y a plus que tout ce qui est dans le monde et tout ce qui est contre toi. Avec toi, il y a le Seigneur, l'Éternel et toute sa parole qui ne passera pas. Il l'a dit, crois-le, et bien fais ce combat que Dieu te donne. Résiste à l'ennemi, ne te laisse pas submerger par l'ennemi. On va voir comment il nous attaque, mais ne te laisse pas submerger. N'oublie pas que tu as avec toi celui qui est tout-puissant, le Seigneur qui a vaincu Satan à la croix, qui a versé son sang, qui a donné sa vie pour remporter une victoire totale sur Satan, et Jésus te donne cette puissance-là pour que tu t'en serves. Si tu es attaqué dans ton corps par les démons, de maladies ou d'infirmités, défends-toi avec les armes que Dieu te donne. Ne prends pas l'attaque passivement en disant « Seigneur, qu'est-ce que je suis ? Oh, malheureux d'être attaqué comme ça, et regarde, moi qui suis ton enfant, et puis on se plaint et on gémit. » Jésus dit « Relève-toi, prends les armes que je t'ai données, revêt-toi de ce manteau de justice et de ces armes de justice et fonce dans le tas en mon nom, tu les disperses comme la poussière des rues au nom du Seigneur Jésus. » Que tu sois seul ou que tu sois avec ton frère, ta sœur, ton mari, ta femme ou ton église, tu as toute autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Alléluia. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Alors nous voulons voir ces choses, hein. Et quand Satan nous attaque, ne le laissons pas. Regardez ce qu'il dit dans Marc 16 et au verset 15 et suivant. Après avoir reproché aux disciples leur dureté de cœur parce qu'ils n'avaient pas cru, je suis sûr que c'est là le problème fondamental de l'Église du Seigneur. Mais tout de même, le Seigneur leur fait confiance, malgré tout, il leur dit « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Premier miracle, « En mon nom, ils chasseront les démons. » Alors, qu'est-ce que tu attends, toi ? Que les démons attaquent constamment et qui te laissent faire. Qu'est-ce que tu attends pour te défendre au nom du Seigneur Jésus? Tu vas me dire, ah, c'est dur, tu sais pas ce que je suis en train de vivre. Si tu étais à ma place, tu parlerais pas comme ça. Eh bien, le Seigneur, il peut nous faire comprendre par son esprit ce que tu es en train de subir comme difficulté, comme combat, mais ça n'excuse pas ta passivité dans le combat et ton manque de foi et ton incrédulité. Le Seigneur ce soir veut renouveler cette foi. Il te dit, relève-toi, prends ma parole et passe à la contre-attaque. Tu ne verras peut-être pas l'ennemi reculer du premier coup parce que c'est un tenace, il s'accroche tant qu'il peut, mais il ne peut pas résister à la toute-puissance de la parole du Seigneur, du sang de Jésus et du nom de Jésus. Il ne peut pas. Sa puissance est grande, mais elle est limitée. La puissance de Jésus est illimitée. La puissance de Satan, elle va jusque-là et pas plus loin. Et si toi, tu n'es pas plus persévérant que lui, il va t'avoir. Il va envoyer toutes sortes de démons pour t'attaquer. Tu vas être vaincu. Alors que Dieu voulait que tu sois vainqueur, toi. Et Jésus est vraiment attristé quand il voit l'état de son Église. L'Église est couverte de chaînes. Quand on voit spirituellement l'Église de Jésus, elle est couverte de toutes sortes de chaînes alors qu'elle devrait être là, libre, en train de libérer elle-même les captifs. Eh bien, le Seigneur appelle un homme, une femme, à le faire. Même si tu es seul à chasser les démons au nom de Jésus, fais-le. Tu seras persécuté parce que le diable n'aime pas ceux qui chassent les démons au nom de Jésus. Le diable a horreur qu'on prenne l'initiative pour commencer à chasser les démons. Et il va tout faire pour nous intimider, hein, faire les gros yeux et les gros bras, là, se gonfler à bloc pour nous faire peur et nous intimider. Mais sachons que c'est un menteur. C'est un menteur. C'est pas lui qui a le dernier mot. Dès que nous prononçons avec foi le nom tout-puissant de Jésus, il tremble. Il diminue, il devient tout petit, il se cache dans un trou parce qu'il a peur de la stature et du nom tout-puissant de Jésus. Il a peur de celui qui vient contre lui au nom de Jésus, qui est revêtu du vêtement de justice, qui prend l'épée de la parole et qui lui dit « Satan, au nom du Seigneur Jésus, je te lie. Et là, au nom de Jésus et par son sang, je te chasse. Va-t'en de ce corps, sors de ce lieu, sors de ma vie, sors de ma famille, laisse tomber ce frère, laisse-le tranquille, laisse cette sœur. » Au nom de Jésus-Christ, quand tu persévères dans cette attitude, il recule, il prend peur et la parole de Dieu dit... Qu'est-ce qu'elle dit? Résister à Satan, il s'enfuira loin de vous. Il va peut-être résister au début pour donner le change, est intimidé, mais persévère dans la foi, il va tourner Kazakh et il va s'enfuir de terreur. Alléluia. Lisons maintenant dans 2 Corinthiens 10 et au verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Donc il y a une façon de combattre les démons qui est bonne et une façon qui n'est pas bonne. Si nous combattons les démons par la chair, jamais nous n'arriverons à les chasser. Combattre les démons par la chair, c'est par exemple aller se faire opérer d'un cancer en demandant à Dieu de bénir l'opération. Ça, c'est combattre par la chair. Pourquoi ? Parce que les cancers sont causés par des démons directement. Toutes les maladies incurables, je le crois, sont causées par des démons qui sont dans le corps. Toutes. Donc un chrétien qui a un cancer, ça veut dire qu'il a dans son corps un esprit de cancer qui est en train de le ronger. Et si on va se faire opérer pour enlever le cancer, vous croyez que le bistouri du chirurgien va enlever le démon ? Il rit le démon. Une chrétienne qui se fait enlever par exemple un sein, parce qu'il y a un cancer dedans, bon, en priant Dieu, Seigneur béni, etc. Bon, le démon, il va sauter sur l'autre. Et 3 ans après, ça va se manifester là, ou dans le foie, ou ailleurs. Pourquoi ? Parce que l'opération n'enlève pas l'esprit. Dieu peut faire grâce, bien sûr, il est souverain, mais là, je parle d'une règle générale, l'opération n'enlève pas le mauvais esprit. Un mauvais esprit, un démon, ne peut être chassé qu'au nom du Seigneur Jésus par la foi dans la parole du Seigneur et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Donc quand, par le discernement du Saint-Esprit, nous voyons qu'il y a un démon, un lien causé par un démon, il faut que nous employions les armes spirituelles du Seigneur Jésus. Et il dit un peu plus loin, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Il nous montre là, dans ce passage, un des moyens utilisés par Satan et les démons pour nous attaquer. Satan ne peut pas posséder un chrétien. Un chrétien est la possession du Seigneur Jésus qu'il a racheté par son sang. S'il nous a rachetés, c'est qu'il nous possède. Le Seigneur Jésus nous possède comme sa propriété. Nous sommes ses enfants, il nous a rachetés. Mais un chrétien peut être lié par un démon ou avoir un démon dans son corps ou dans son âme ou être attaqué de l'extérieur par des démons pour être lié. Ça, c'est sûr et certain. Je sais qu'il y a des chrétiens qui ne croient pas qu'un démon puisse être dans le corps du chrétien en citant le verset qui dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit, donc il ne peut pas y avoir de mélange entre l'Esprit du Seigneur et un autre esprit dans le même temple. Mais parler comme ça, c'est parler sans connaître la parole du Seigneur, parce que la parole de Dieu nous montre très bien dans l'Ancien Testament que le temple de Dieu, qui est le modèle et qui est l'image du temple que nous sommes, le temple de Dieu était pendant des centaines d'années habité par la présence de Dieu dans le lieu très saint et par des démons qui étaient attachés aux idoles qui étaient dans le temple et que les Israélites adoraient en même temps que le vrai Dieu. Il y avait donc à la fois la présence de l'Esprit de Dieu dans le lieu très saint qui représente notre esprit. Je ne crois pas qu'un démon puisse venir dans l'esprit d'un chrétien, jamais. C'est le Saint-Esprit qui habite là et c'est sa maison. Tandis que dans les parvis extérieurs et dans le lieu saint qui représente l'âme et qui représente le corps, il y avait là des statues d'idoles et nous savons d'après Paul que derrière le culte des idoles sont attachés des démons qui sont là et ceux qui adorent des idoles, ils adorent des démons et ils attirent des démons. Donc quand l'idole d'Astarté était installée là dans le parvis du temple par Manassé, et qu'il rendait un culte à Astarté, il rendait un culte à des démons qui étaient là dans le temple. Je vais vous lire dans Ézéchiel un passage qui nous le montre. Dans Ézéchiel 8 et au verset 5, c'est Ézéchiel qui est transporté par des visions célestes dans le temple de Jérusalem, et Dieu lui montre en esprit ce qui se passe dans le temple. Et il lui dit, au verset 5, « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. » Je levais les yeux du côté du septentrion. « Et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. » Dans le temple même, l'idole de la jalousie. Dieu lui dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël ?» Pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Il y était donc le Seigneur dedans, dans son sanctuaire. Il y était là. Et là, à la porte de son sanctuaire, dans le sanctuaire même, il y avait l'idole de la jalousie, qui était un culte aux démons. Et puis, il dit, après lui avoir fait percer la muraille, il lui dit au verset 9, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici, donc un peu plus loin encore dans le temple. J'entrais et je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles. Vous savez ce que c'est les reptiles? Les serpents et les scorpions, les bêtes abominables. Il y avait des figures de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille. C'est-à-dire des représentations même des démons et de Satan. Dans le temple de l'Éternel, vous vous rendez compte? Et il y avait les anciens qui étaient là et qui adoraient ces figures. Ensuite, Dieu ordonne la destruction. Et au chapitre 10 d'Ézéchiel et au verset 3, les chérubins étaient à la droite de la maison quand l'homme alla. Et la nuée, qu'est-ce que c'est la nuée? C'est la présence de la gloire de Dieu dans le temple. La nuée remplit le parvis intérieur. Donc Dieu commençait à sortir de son temple pour le quitter définitivement. Dieu avait supporté pendant des centaines d'années la cohabitation dans le même temple entre l'Esprit du Seigneur et les esprits des démons. Et Dieu avait patienté pendant des centaines d'années en envoyant des prophètes en leur disant « Revenez de vos mauvaises œuvres et reprenez le culte au vrai Dieu. Débarrassez-moi ce temple saint de toutes ces idoles et ces abominations qui attirent les démons. » Et il ne l'avait pas fait. La gloire de l'Éternel, verset 4, s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. Vous voyez que Dieu, à ce moment-là, est en train de sortir de son temple. Est-ce que ce n'est pas une image aussi de la perte du salut? Dieu est en train de sortir de son saint temple. Parce que le temple de Jérusalem n'a été détruit par Nabuchodonosor que après que la gloire de Dieu en fut sortie. Et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Quand je lis ça, moi, ça me donne presque envie de pleurer parce que je vois Dieu en train de quitter sa sainte maison. Vous vous rappelez quand Salomon avait achevé la maison à l'instant où on commençait l'adoration, où tout était à sa place, où l'autel des parfums, où l'autel des sacrifices, où la table des pains, où l'arche de l'Alliance était là, où tout le peuple s'était sanctifié. À ce moment-là, on commence l'adoration et la louange, et la nuée de l'Éternel remplit la maison. Et ils ont été obligés de sortir. Et Dieu était resté là, supportant toutes les iniquités de son peuple pendant des centaines et des centaines d'années, jusqu'au moment où Nabuchodonosor, qui représente Satan, est venu détruire Jérusalem et détruire le temple. Mais auparavant, la gloire de Dieu était partie. Juste à ce moment-là. Et là, elle se met sur le parvis qui est rempli de la splendeur de la gloire. Et on voit un peu plus loin la gloire de l'Éternel qui s'élève. Au verset 18, « La gloire de l'Éternel se retira du seuil et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux quand ils partirent, accompagnés des roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient. » On dirait que Dieu regrette presque d'être en train de partir là. Elle s'arrête un moment à la porte, comme si Dieu attendait encore, est-ce qu'ils ne vont pas encore se repentir et me demander de revenir? Elle s'arrête un moment. Et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. Et un peu plus loin, au chapitre 11, après encore avoir reçu une révélation du Seigneur, au chapitre 11 et verset 22, « Les chérubins déployèrent leurs ailes accompagnés des roues, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville et se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. » C'est la montagne des Oliviers. Là où le Seigneur Jésus va venir un jour reposer ses pieds. Et là d'où le Seigneur Jésus est parti quand il est monté au ciel. Vous vous rendez compte, ces signes que Dieu donnait déjà à l'époque. Et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. Ça y est. La gloire de l'Éternel était partie. Et peu de temps après, Nebuchadnezzar arrive et rase le temple. Le temple de notre corps, qui est représenté par le temple de l'Éternel, il en est exactement de même pour nous. Vous comprenez comment un démon peut cohabiter dans le même temple avec l'Esprit de Dieu et la gloire de Dieu? C'est exactement comme c'est expliqué ici. L'Esprit du Seigneur vient en nous à la nouvelle naissance et va dans le lieu très saint de notre esprit. Mais si nous ne sommes pas sanctifiés, si nous vivons dans le péché, si nous faisons un culte aux démons et aux idoles de ce monde, nous allons attirer des démons sur le parvis et jusque dans le lieu saint. C'est-à-dire, il va y avoir cohabitation dans le même temple. Et Dieu ne veut pas ça. Le seul moment où il peut y avoir une cohabitation qui est en partie justifiée, c'est juste après la conversion. Des gens qui arrivent au Seigneur avec une vie remplie de liens et de démons, qui reçoivent le Seigneur comme leur sauveur. Et pendant un certain temps, le Seigneur est à l'œuvre pour les purifier, les débarrasser des maladies, des liens, des infirmités. Donc ça peut aller plus ou moins vite selon l'enseignement qu'on reçoit, selon la soif qu'on a de Dieu. Mais Dieu travaille là dès le début à nous remplir de son esprit, à nous guérir et à nous débarrasser de tout lien démoniaque. Il ne faut pas croire que les liens démoniaques et les démons qui peuvent se trouver dans notre corps disparaissent tous à l'instant où on se convertit au Seigneur Jésus. À l'instant où on se convertit, c'est l'esprit qui est changé et c'est une promesse de totale manifestation de la victoire de Jésus qu'on reçoit. On a la victoire en Jésus, on a au moment où on se convertit une pleine délivrance de toute la puissance des démons, une pleine guérison de toute maladie et de toute infirmité, mais ça ne se manifeste pas forcément le jour où on se convertit. Sinon ça voudrait dire que tous les chrétiens malades, le jour où ils se convertissent, ils sont guéris immédiatement, et c'est pas vrai. Manifestement, ce n'est pas vrai. Les églises sont remplies de chrétiens malades qui sont pourtant des vrais chrétiens. Et pourtant, il est écrit que Jésus nous a débarrassés de la maladie par ses meurtrissures. À la croix, nous avons été guéris. Il en est de même pour les liens démoniaques. Par le sang de Jésus et par la mort de Jésus, nous avons été débarrassés de toute la puissance de Satan. Il l'a vaincu, de même qu'il a vaincu les maladies à la croix par ses meurtrissures et par sa mort et par son sang. Il a vaincu Satan, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ça, Jésus l'a accompli. Mais maintenant, le jour où tu te convertis, il te donne sa victoire et il te dit maintenant, prends toutes les armes que je t'ai données, reçois ça par la foi, combat au nom de Jésus pour que tout ce que j'ai acquis pour toi se manifeste dans ta vie. Mais ce n'est pas manifesté le jour même de la conversion nécessairement. Il y a beaucoup de chrétiens dans certaines églises qui ne peuvent pas supporter l'idée ou l'enseignement qu'un chrétien puisse avoir un démon dans son corps. Ils disent c'est une hérésie épouvantable. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu, bien-aimés. Ce que je viens de vous dire là. Et les mêmes, eux, qui vont prêcher la guérison divine, ils vont accepter très bien qu'on n'est pas forcément guéri le jour de la conversion. Comment ne peuvent-ils pas comprendre par conséquent qu'on n'est pas forcément délié de tous les liens le jour de la conversion? C'est la même parole qui nous guérit, c'est la même parole qui nous délivre des liens de l'ennemi. Si tu crois que les meurtrissures de Jésus t'ont guéri, tu as une assurance de la guérison qui t'est donnée par la foi en Jésus, mais il faut que cette foi agisse et se manifeste dans ta vie. Ça veut dire que tu vas combattre si tu vois une maladie se manifester dans ton corps. Tu vas demander la prière des anciens, tu vas demander l'onction d'huile, tu vas demander l'imposition des mains, et si tu es dans la foi et dans la foi en la parole de Dieu seul, tu vas voir la maladie partir. Amen. Si tu sens qu'il y a un lien dans ton corps ou dans ton âme, ou que tu sens que quelque chose est lié dans tes pensées ou dans tes sentiments, dans ta volonté, dans ton corps, ou qu'il y a un esprit de maladie, d'infirmité, de cancer, de surdité, n'importe quoi, de cécité ou autre dans ton corps, il ne faut pas que tu croies que le jour où tu as été converti, tous les démons sont sortis automatiquement. Ça va t'empêcher de résister à ces démons pour les chasser. Tu vas avoir reçu un faux enseignement qui va t'empêcher de lutter contre ce démon. Et tu risques d'être lié toute ta vie par cette infirmité ou cette maladie, alors qu'il aurait fallu simplement se tourner contre elle par la foi, ou contre ce démon de cancer, ou de surdité, ou de cécité qui te lie, et lui dire « Maintenant j'ai compris que c'était un démon, au nom de Jésus je te résiste, et tu vas sortir de mon corps, où je vais demander à un frère ou une sœur qui a cette foi de prier avec moi pour le chasser. » Et il va être chassé, et Dieu sera glorifié. Donc, rejetez, bien-aimés, cet enseignement qui veut vous faire croire que à partir du moment où vous devenez le temple du Saint-Esprit, il ne peut plus y avoir ni un démon dans ton corps, ni un lien démoniaque sur ton âme ou sur ton corps. C'est faux, c'est un faux enseignement. Il faut avoir une attitude équilibrée et voir les démons où ils sont. Donc ça veut dire qu'il se peut très bien qu'un des problèmes que tu as en ce moment dans ton âme, c'est-à-dire dans tes pensées, dans tes sentiments et dans ta volonté, ou dans ton corps physique, soit causé par un lien directement posé par un démon, ou par un démon qui se trouve dans ton corps. Si c'est le cas, il ne faut pas en voir là où il n'y en a pas, hein, des liens démoniaques ou des démons, mais si c'est le cas, en particulier si tu as une maladie longue et pénible et tenace, ou un lien long et pénible et tenace qui apparemment n'arrive pas à partir dans la prière, même dans le jeûne et dans tes supplications au Seigneur, pose-toi la question et pose-la au Seigneur avant tout. Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas là un démon qui est en train d'agir dans ma vie? Et le Saint-Esprit te le montrera, parce que notre Père Céleste est un bon Père qui veut la délivrance et la guérison de ses enfants. Je commence par parler de la délivrance des chrétiens, parce qu'évidemment le Seigneur veut aussi délivrer les païens, mais il veut les amener au salut et à la repentance, à la guérison et à la délivrance aussi. Donc, le diable peut tenir un enfant de Dieu lié par des démons après sa conversion parce qu'il les avait avant, ces liens et ces démons. Et ces liens et ces démons, il les avait avant parce que le diable ne peut entrer dans une vie d'homme que par hérédité ou à cause des péchés qui ont été commis.